Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes bien sur Graphite 94.9 et on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle émission des Échos de l'Innovation. Je suis content de revenir pour la deuxième fois dans cette belle émission. Je ne viens pas seul évidemment, nous sommes plusieurs étudiants à venir de l'Université de Technologie de Compiègne, 9 exactement. Et après vous avoir parlé de l'innovation dans l'agriculture lors de notre premier passage, nous revenons aujourd'hui pour vous parler sport. Et plus précisément de l'innovation dans le sport. Au programme, deux débats, une chronique, une interview exclusive de Pierre Steiner et un quiz auquel vous pourrez bien sûr tous participer depuis chez vous, dans votre voiture, dans les transports, sur une plage ou même sur vos toilettes, pourquoi pas. Nous, à travers des années, le sport évolue et son intérêt aussi. À travers la technologie, la recherche de la performance est d'autant plus présente qu'avant. On parle même de shows, de spectacles même. Le sport devient un réel business et engendre des sommes d'argent astronomiques. Les audiences explosent pour certains sports, les moindres faits et gestes des sportifs sont médiatisés. Ce qui nous emmène au sujet de notre premier débat. Le sport tend-il à devenir un réel spectacle au travers des innovations technologiques et de la médiatisation? Pour répondre à ce débat, nous avons quatre invités. Nous avons tout d'abord Agathe. Salut Agathe.
Bonjour à tous.
On a également Ilyes. Salut Ilyes.
Salut tout le monde.
On a également Julien. Salut Julien.
Salut.
Et pour finir, on a Guillaume.
Bonjour à tous.
Du coup, commençons ce débat, ne perdons pas de temps. Et dans un premier temps, est-ce que le sport, depuis quelques années, est-ce que le sport tend-il de plus en plus vers le show? Est-ce que quelqu'un a envie de commencer, envie de débattre?
Je pense qu'on sera tous d'accord pour répondre à la question par l'affirmatif. Maintenant, la question, c'est de quelle manière est-ce qu'il tend de plus en plus vers le show ? C'est vrai qu'on remarque de plus en plus un fort intérêt pour les sports qui tendent vers le spectacle, qui sont de plus en plus regardés. On peut prendre l'exemple du Super Bowl, qui est au-delà d'un simple match, vraiment un gigantesque show animé par les plus grandes superstars de la musique et rythmé par toutes les dernières publicités des plus grandes marques. Ça devient vraiment un réel spectacle et c'est ça qui attire de plus en plus de personnes à le regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple, le Super Bowl. Bon, c'est sûrement le plus connu. Après, il y a aussi je sais que dans les matchs de basket, souvent, en soi, le temps de jeu, il n'est pas si long que ça. Mais pourtant, le match dans le stade, il dure extrêmement longtemps, justement à cause des pubs. Je sais qu'il y a énormément de pubs dans ces shows-là à l'américaine, souvent, justement parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, quoi, au niveau de l'audience. Après aussi, à ce niveau-là, au niveau de la médiatisation, il y a aussi l'effet des réseaux sociaux, qui récemment a vraiment énormément amplifié ce phénomène, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Oui, les réseaux sociaux sont souvent utilisés comme un livre ouvert en fait par les clubs, surtout sur les clubs, enfin pour les clubs de foot, les adhérents ils sont devenus fans en fait et ils suivent comme une aventure. Ça permet d'améliorer aussi l'image des clubs, notamment celui de Leicester, où en fait on remarque en fait une croissance de 487% de ses abonnés sur toutes les plateformes confondues sur l'année 2016, qui est vraiment important.
Sûrement que ça, tous ces chiffres-là, cette exposition médiatique, elle joue aussi dans l'argent généré par ces clubs-là, ou même, pas forcément des clubs de foot, mais par ces sportifs-là, au niveau des sponsors. C'est-à-dire que on sait tous que plus on est médiatisé, plus le sponsoring coûte cher. Et donc, on sait que ça s'est dupliqué avec ces réseaux sociaux-là. Ça aussi, ça joue.
Il y a aussi l'apparition de formats sportifs qui sont idéaux pour ces vidéos courtes sur Instagram ou sur TikTok. C'est le cas de la MMA ou de sport, même comme le football américain ou autre, qui montre les coups les plus brutaux dans un court extrait de 20 secondes avec une musique de fond qui donne envie de consommer de plus en plus ces courts extraits et nous donne pas une vraie image du sport, mais nous incite à s'y intéresser.
Ouais, c'est le format parfait pour fragmenter.
Oui, c'est vrai, je rebondis sur ça. C'est vrai que les réseaux sociaux jouent vraiment le rôle de la surmédiatisation en fait, des sports qui sont déjà des shows. Combien de fois on a vu combien de fois on a vu en fait, l'extrait du second poteau de Pavard, par exemple. Je pense qu'on a tous vu en boucle sur Instagram, sur Facebook. Et c'est vrai que ces vrais shows sont encore plus relayés via les réseaux sociaux, ce qui n'encourage pas en fait... le sport de rester plus simple comme on l'a connu auparavant.
Ouais, c'est ça, ça le pousse encore plus vers ce format-là de instantanéité, format court, des trucs choquants, marquants, quoi.
Ouais, je pense que le sport, en fait, c'est un peu le reflet de notre société. Maintenant, on veut plutôt consommer rapide. Mmh. Avant, c'était le sport, c'était plutôt quelque chose, enfin, comme une philosophie. Notamment, je pense, enfin, aux Spartiates ou à l'époque romaine, où finalement, le sport, c'était quelque chose. Enfin, c'était une survie. Mmh. C'était aussi du spectacle. Hein. On commençait tout juste, je trouve, à parler spectacle avec les arènes, tout ça. Mmh. Mais maintenant, vraiment, on consomme rapide et ouais, c'est un petit peu...
Après, justement, malgré tout, même si on sait que c'est de plus en plus rapide, comme on a dit, court, etc., il y a quand même un public pour des sports qui sont moins spectaculaires, etc. On sait qu'il y a des publics pour des sports comme le curling ou des choses comme ça, même s'ils ne sont pas du tout spectaculaires. Il y a quand même des publics pour ces sports-là. Il y a des gens qui sont passionnés par le sport, pour ce sport-là, pour l'esprit sportif, la performance, et non pas justement ce côté spectaculaire. Ça existe encore malgré tout.
Alors oui, comme vous dites, du coup, le sport est de plus en plus relayé sur des formats courts comme sur TikTok, comme vous disiez. Mais la question qu'on peut alors se poser, c'est est-ce que l'innovation joue un rôle dans cette évolution du sport, dans ce fait de devenir un spectacle, ou au contraire, c'est juste la nature humaine qui le fait devenir comme ça ?
Pour ma part, je dirais que l'innovation joue un rôle vraiment primordial dans ce sport qui tend vers le show. On tend de plus en plus vers les limites du corps humain. Et donc, je pense que c'est l'innovation et la technologie qui permettent de battre des records qu'on aurait pu battre sans la technologie. Et donc, d'entretenir ce spectacle. On voit bien qu'il s'agisse de l'entraînement, de la récupération, des soins, ou du matériel, ou de la compétition en elle-même. Le sport de haut niveau est truffé de technologies et d'innovations high-tech. L'amélioration des équipements des athlètes, par exemple, permet d'augmenter les performances et de battre des records. On voit que c'est le cas dans le vélo, par exemple, mmh. avec les vélos des cyclistes et des triathlètes qui sont améliorés, qui sont en carbone pour être plus légers, qui sont beaucoup plus profilés. Les roues sont aérodynamiques ouais. pour permettre aux cyclistes d'aller toujours plus vite.
Ouais, justement, pour le vélo, j'ai vu que en un siècle à peu près, à cause de ces évolutions technologiques assez importantes, on est passé de 25 km/h en moyenne à près 40 km/h en moyenne sur les courses. Donc forcément, ce changement, il va attirer beaucoup de monde. C'est sûr que ça donne plus envie de regarder quand les gens vont vite, quoi. Et ouais, y a plein d'autres exemples comme ça.
Je pense que l'exemple de la VAR, c'est le plus connu pour le foot. Maintenant, chaque fois qu'il y a une action controversée, le temps va s'arrêter. Bon, le temps va pas s'arrêter, mais l'action va être révisée. Et donc, il y a un aspect beaucoup moins spontané dans le sport. Mmh. On va réviser chaque action et ça veut dire que les matchs, il y a beaucoup moins de... C'est beaucoup plus posé et il y a moins d'espace pour un peu l'imagination et la spontanéité.
Donc ce serait moins spectaculaire, c'est ça ?
Ouais, moins spectaculaire et peut-être aussi ça enlève une partie de l'essence au sport, qui est de laisser jouer et de voir... juste de profiter.
Okay, je vois.
Oui, c'est vrai qu'au-delà d'améliorer la performance sportive, il y aurait peut-être un côté de la technologie qui, en fait, dénaturerait le sport. C'est ce que tu es en train de dire. C'est, par exemple, le cas des combinaisons de natation qui avaient pour but de reproduire la peau des requins pour plus de glisse, et donc plus de vitesse, qui ont été interdites afin d'éviter de basculer, en fait, dans un autre sport.
Mais la question qui se pose, là, c'est que il y a certains sports où justement ces évolutions technologiques elles sont entièrement prises en compte. Je pense notamment au saut à la perche, où le saut à la perche, les évolutions des perches, elles jouent directement sur d'une part les performances et aussi d'autre part la nature du sport, c'est-à-dire comment il est pratiqué. Au début des années 1900, je sais que c'était des perches en bois, et il y a des vidéos sur YouTube si vous les regardez, mais les perches elles se plient pas du tout, elles sont rigides, quasi entièrement rigides. Et c'est pas du tout le même sport, ça demande pas du tout les mêmes compétences que le sport qui est pratiqué aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ce serait accepté, ces évolutions technologiques, alors que dans le cas de la natation, comme tu l'as dit, ça a été refusé. C'est difficile de trouver une séparation entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
Peut-être qu'on reviendra à cette question plus tard quand on fera le débat 2 et l'innovation, est-ce qu'elle crée des inégalités dans le sport ? Ça sera un sujet intéressant. Peut-être une dernière question pour finir ce débat. Si le sport tend à être un spectacle, la question qu'on peut se poser aussi, c'est les spectateurs, s'ils ne regardent pas le sport pour un spectacle, pourquoi regardent-ils le sport alors ?
Il existe encore des sports dans lesquels les records ne sont pas encore battus et qui permettent du coup d'attirer encore du monde, ou bien les sports collectifs qui en soi n'atteignent pas de records et qui restent très attractifs malgré le fait que nos capacités physiques atteignent leurs limites. ces sports-là attirent encore beaucoup de monde. Et je pense aussi au fait de pourquoi les gens regardent encore le sport. Peut-être pour d'autres raisons, des raisons sociales. Le fait de se réunir en famille, entre amis, ouais, de créer des liens sociaux. On voit bien que le sport, c'est un réel fédérateur. On a tous connu la Coupe du Monde de 2018 à se rassembler à plusieurs centaines de milliers de personnes sur des places pour regarder le match. Je pense que le sport a un réel pouvoir là-dessus.
Oui, ça a aussi une... je pense notamment plutôt à l'aspect économique du sport. On sait qu'il y a beaucoup de paris en ligne, tout ça, qui favorisent finalement le watch time. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ouais.
Ouais, donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par rapport aux paris sportifs, il y a des gens qui regardent des sports qui ne les intéressent même pas, simplement pour justement améliorer, on va dire, leur quota de paris et tout, mais bon.
Oui, on sait que, par exemple, la médiatisation de certains sports comme le foot, la Coupe du Monde de foot, c'est environ 576 millions d'euros. Donc, il faut que ce soit un minimum rentable. Donc, on peut se demander quelle est la somme d'argent qui a été amassée avec ça, par exemple. Mm. C'est vraiment énorme. Par rapport au football féminin, c'est vraiment très peu. Enfin, vraiment énorme, pardon, excusez-moi.
Et je pense qu'il y a aussi un aspect très local du sport. Moi, quand je rentre chez moi à la maison, j'aime bien aller voir si j'ai un ami qui joue un match, j'aime bien aller le voir ou participer dans des événements sportifs. Parce qu'en fait, aller voir la finale de la Coupe du Monde, je sais que ça ne va pas être possible. Mais avoir un sport plus proche, ça m'incite à aller le voir. Et donc, je trouve qu'il y a toujours l'espace pour un sport où l'innovation ne l'a pas changé totalement.
Ouais, un sport plus amateur, moins... transformé.
Exactement.
C'est vrai qu'il y a encore des sports qui attirent pour le vrai côté du sport, quoi, pour le sport pur qu'il représente. Et il y a encore des gens qui sont complètement fans du sport en soi, plus que de l'ambiance et plus que des gens que ça peut réunir.
Est-ce qu'on peut parler, en dehors des paris sportifs, tout ça, est-ce qu'on peut parler de ressentir des émotions, des sensations, de l'adrénaline à chaque match en tant que spectateur?
Ah, c'est ça, il y a des gens qui sont vraiment totalement passionnés par le sport.
Eh bien, merci pour ce débat. On vous retrouve dans quelques instants pour faire un deuxième débat donc sur les inégalités causées par l'innovation ou non. Et donc, on retrouve Greg. Salut Greg.
Salut.
Donc Greg qui va nous faire une chronique sur la Formule 1 et qui va nous parler de l'innovation dans le sport et de sa place par rapport au spectacle. Donc voilà, Greg, nous t'écoutons.
Merci Hugo et bonjour à tous. Donc tout d'abord, il faut savoir que la Formule 1, donc, c'est un de ces sports où la technologie a une immense place dans la performance. Donc en plus d'être une compétition entre les pilotes, c'est avant tout une compétition technologique entre les écuries. Chaque équipe va investir des sommes colossales dans le développement des voitures chaque année. Le but est simple, qu'elle soit la plus performante possible, mais également, chose très importante, la plus simple à piloter. Effectivement, le pilote a un très grand rôle à jouer. Lancé à plus de 300 km/h dans des virages extrêmement serrés, la moindre erreur peut être fatale déjà pour lui, mais en plus pour sa voiture. Sachant que les courses durent quasiment 2 heures pour un total d'un peu plus de 300 km et que la moindre sortie de piste peut signifier abandon, les pilotes ont une immense responsabilité. Depuis 1946, les écuries se succèdent ainsi que les modèles de voitures qui, elles, vont toujours plus vite. Dans ce sport, devenu un vrai business, la technologie est là pour impressionner les spectateurs. Des voitures toujours plus rapides, toujours plus bruyantes, des circuits de plus en plus modernes et animés, des données de plus en plus étendues pour pouvoir atteindre des performances maximales, des innovations dans l'expérience spectateur également, avec des caméras sur toutes les voitures, même jusque dans le casque de certains pilotes, permettant aux spectateurs de voir comme un vrai pilote de F1. Dans les dernières décennies, les voitures étaient tellement rapides qu'elles en devenaient dangereuses pour les pilotes. Depuis 1980, c'est 7 pilotes qui ont péri dans leur voiture, avec le dernier en date, donc c'était un Français au Grand Prix du Japon en 2014. Jules Bianchi, donc c'était Jules Bianchi. Et ça, c'était seulement en F1, puisqu'il existe d'autres catégories. Il existe la F2, la F3 et même la F4, qui sont donc des catégories pour développement de jeunes pilotes, où il y a eu également beaucoup d'accidents.
Et du coup, comme tu dis, les voitures vont de plus en plus vite, mais tu en parles, le problème, c'est donc les accidents. Du coup, qu'est-ce qui a été mis en place pour éviter tous ces accidents en F1?
Et bien, tout d'abord, les organisateurs se sont rendus compte que la vitesse n'était pas du tout le seul intérêt des spectateurs. Les spectateurs aiment par-dessus tout les batailles entre pilotes et les dépassements, les retournements de situation, enfin bref, quand il y a du spectacle, quoi. Donc à ces deux problèmes, la FIA, donc c'est la fédération qui gère la Formule 1, donc elle a répondu avec des innovations technologiques. Pour la sécurité, ils ont ajouté des halos par exemple, qui sont une sorte de grande visière qui vient se positionner au-dessus du cockpit du pilote et qui permet de détourner des objets qui viendraient heurter la tête du pilote. Ils ont également développé des systèmes permettant aux stocks de carburant qui sont dans les voitures d'être extrêmement résistants pour éviter les explosions. Ils ont aussi donc développé des combinaisons pilotes totalement ignifugées. Et il y a plein d'autres innovations qu'ils ont développées pour la sécurité des pilotes. Pour les dépassements, ils ont mis en place un système de DRS. Donc c'est un système qui permet d'obtenir un petit boost de vitesse dans les lignes droites quand on est à moins d'une seconde de la voiture qui est devant nous. Ils ont également forcé les constructeurs à réduire l'air sale produit par les voitures qui gêne énormément les voitures poursuivantes. Ces nouvelles règles ont amené à la mise en place d'un règlement limitant la liberté de conception des écuries. En effet, vu que la fédération et les constructeurs n'ont pas du tout le même objectif, il a donc été nécessaire de les faire entrer dans le règlement.
Mais du coup, avec tous ces changements, toutes ces règles apportées dans la F1, est-ce que ce sport est-il devenu plus spectaculaire qu'avant ?
Alors oui, c'est sûr que ça a permis d'augmenter le spectacle. Mais la FIA s'est également rendu compte d'un autre problème qui rendait le sport beaucoup moins attractif. Ce problème, c'était les inégalités budgétaires des écuries qui rendaient donc la concurrence sans grand intérêt. Il n'y a qu'à voir les résultats des 8 dernières années. C'est à chaque fois l'écurie Mercedes qui a remporté le championnat le pilote Lewis Hamilton, donc un pilote Mercedes, qui a remporté lui 7 fois sur 8 le titre de champion du monde. Alors certes, cela reste un exploit monumental de la part de l'écurie allemande et du pilote britannique, mais on peut aussi se poser la question, est-ce que le fait qu'ils aient un budget de développement très supérieur aux autres écuries ne les a pas trop avantagés ? Il n'y a qu'à prendre en 2019, par exemple, leur budget de développement pour la voiture était d'environ 500 millions d'euros et le budget de développement de la voiture de la Williams était de 140 millions d'euros et eux, ils ont fini bon dernier du classement.
Et du coup, avec toutes ces différences budgétaires entre les deux écuries, il y a quelques inégalités. Comment fait la fédération pour éviter que l'argent ait un trop gros impact sur la compétition ?
Et ben depuis cette année, les budgets de développement des équipes sont plafonnés à 140 millions d'euros. Le but est de baisser ces budgets chaque année pour arriver à quelque chose de raisonnable. Depuis quelques années, la FIA a décidé de limiter le nombre de calculs d'aérodynamisme et de tests en soufflerie en fonction de la position des écuries. En effet, les écuries qui sont dans le haut du classement auront le droit à moins de tests sur les développements de la voiture, alors que les écuries qui sont dans le bas du classement auront plus de temps pour améliorer leur voiture. Tous ces changements ont pour but d'augmenter la compétitivité entre les voitures et éviter que les championnats soient joués d'avance. On peut donc clairement dire que l'innovation est limitée pour permettre d'augmenter le spectacle. Alors il faut savoir que les effets de ces mesures sont attendus pour cette année et que depuis le début de la saison, on voit un peu les mêmes écuries se démarquer, même si les courses sont beaucoup plus serrées. Il faudra encore attendre pour tirer des conclusions sur le fonctionnement ou non de ces mesures.
Ok, donc un dernier mot maintenant. Est-ce qu'on peut dire que l'innovation n'est pas au service du spectacle dans la F1 donc ?
Non, je pense que c'est un raccourci un peu rapide. Il est vrai que l'innovation non contrôlée de ces dernières années a fait ressortir le fait que l'argent donnait un trop gros avantage dans un sport où le développement et l'innovation sont si importants. Néanmoins, il est sûr que l'innovation technologique, que ce soit au niveau des voitures avec des systèmes toujours plus impressionnant au niveau de la sécurité des pilotes ou au niveau de l'expérience spectateur elle-même, il est sûr qu'elle sert bien évidemment le spectacle. On peut donc en conclure que l'innovation, même dans un sport comme la F1, où elle joue un rôle aussi important que la performance physique, peut avoir apporter des inégalités, mais elle peut également desservir le spectacle et même mettre en danger la vie des pilotes. Eh bien, si jamais vous avez apprécié cette chronique et que vous voulez en savoir plus sur la F1, je vous conseille la chaîne YouTube de Depiello, qui est vraiment très bien faite et qui vous explique très bien comment ce monde fonctionne. Et pour tous les adeptes de F1, je vous donne rendez-vous ce dimanche 21h30 pour le départ du Grand Prix de Miami.
Eh bien, merci Greg. On ira tous voir la chaîne YouTube pour en savoir un peu plus sur la F1. Le temps pour nous de faire une petite pause musicale avec la célèbre chanson Eye of the Tiger tirée du film Rocky. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes bien sur Graphite FM 94.9. Bonne écoute. Une belle musique et un bon film pour faire une petite pause musicale. On se retrouve désormais avec Souleymane. Salut Souleymane.
Salut, comment ça va?
Ça va bien, c'est toi, comment tu vas Souleymane?
Ça va.
Eh bien écoute, je te laisse la parole. Il est temps de faire un petit quiz, vous pouvez jouer depuis chez vous, vous êtes toujours sur Graphite 94.9 FM. Et voilà Souleymane, je te laisse la parole.
C'est parti. Donc c'est l'heure du Kipo Quiz. Donc il y aura une série de 8 questions sur un peu des faits improbables sur le sport, plus orienté dans la triche. Et avec à chaque fois plusieurs éléments de réponse, et à vous de me dire lequel pour vous est le plus probable. Donc on va commencer avec la première question. Donc Ferdinand Lewis Alcindor est considéré comme le meilleur joueur de basketball de la Ligue universitaire américaine de l'histoire. Une loi, donc nommée la Alcindor Rule, pour ceux qui comprennent l'anglais, a même été surnommé en son honneur. De quoi s'agissait-il? Donc, réponse 1, l'interdiction de faire un dunk. Réponse 2, la ligne des 3 points a été reculée. Réponse 3, il avait le droit de jouer que la moitié du temps. Ou réponse 4, Les points qu'il marquait ne comptaient qu'à moitié.
Franchement, je pense que c'est la ligne des 3 points, non ?
Non, je pense que c'est plutôt il devait jouer que la moitié du temps, je pense.
Il était trop fort.
Ah ouais ?
Non, perso, moi j'aurais plutôt dit interdiction de dunker, parce que je sais qu'il y a des joueurs américains qui sont vraiment très grands, du coup je me dis peut-être ça cassait le spectacle, je sais pas.
Moi, allez, je vais dire la réponse 3, je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est la 3, je suis plutôt fier.
Eh bien, bonne réponse, c'était celle d'Antoine, l'interdiction de faire un dunk. Suite à la domination de Lewis Alcindor, la Ligue universitaire américaine décide d'interdire l'arme offensive majeure de Lewis Alcindor, le dunk. Donc cette règle, désormais connue sous le nom de la Alcindor Rule, est opérationnelle à partir de la saison 1967 et restera en vigueur jusqu'en 1976. On passe maintenant à la question 2. Donc Boris Onichenko est connu pour avoir été banni des Jeux Olympiques de Montréal pour tricherie lors de l'épreuve du pentathlon. Excusez-moi. Comment a-t-il triché ? Donc son cheval était dopé. Il a empoisonné ses concurrents. Il a truqué son épée d'escrime en ajoutant un interrupteur. Ou alors il avait une combinaison à moteur pour la natation.
Wow. Moi je pense qu'il a drogué le cheval. Le cheval a pris une substance illicite, je pense.
C'est-à-dire qu'il faut deviner son sport. Hein.
Bah du coup, équitation s'il y avait un cheval, je dirais.
Moi je pense il a truqué son épée d'escrime.
Ok.
Ouais, j'aurais dit la même. Je pense que c'est ce qui me semble le plus probable.
Mm. D'accord.
C'est l'improbable qui prime ici.
Ouais, c'est vrai, hein, beaucoup, tu vas voir.
Ouais, le trucage, c'est assez probable.
Ouais, bah c'était ça. Il a truqué son épée d'escrime en ajoutant un interrupteur. Donc il faut savoir que c'était pendant les Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Et lors de cette épreuve, les différentes nations s'affrontent une à une dans un duel à une touche. Donc le premier qui est touché perd. Et le but est d'éliminer les 3 concurrents de l'équipe adverse. Donc au classement, on avait l'URSS qui était 4e, donc il voulait vraiment monter sur le podium et qui a utilisé son arme secrète, donc l'épée truquée. Et celle-ci permettait d'activer la table du jury sans même toucher l'équipe adverse, juste en appuyant sur un interrupteur. Et ils se sont rendus compte de la supercherie lorsque l'équipe adverse a esquivé le coup, mais que la table s'est quand même allumée.
C'est ingénieux quand même, il a bossé.
Ouais, franchement, une innovation dans le sport.
Innovation en tout cas. Hein.
Donc, troisième question. La Cubaine Rosie Ruth réalise un coup de maître lors du marathon de New York en 1979. De quoi s'agissait-il ? Elle a remporté le marathon en s'étant dopée sans se faire prendre. Elle a remporté le marathon en battant le record homme. Ou elle a fait le voyage jusqu'à l'arrivée en métro en un temps record et a récupéré son prix sans être essoufflée.
Ah, j'ai envie de dire le métro. Quand même, le métro.
Vraiment, si elle a fait ça, vraiment, c'est...
C'est un crack, c'est un crack.
Ah, c'est crack, crack, crack.
Ouais, je suis assez d'accord pour le métro. Je pense vraiment que ça peut se faire et elle a dû gagner beaucoup de temps pour réussir à gagner comme ça.
Je serais même déçu si c'est pas le métro. Donc
Ah bah, t'inquiète pas, c'est le métro.
C'était sûr.
Donc elle a traversé les 42 bornes en transport en commun et a remporté le titre en un temps record de 2h30 pour les femmes à cette époque et est arrivée avec un visage frais et sans fatigue. Bien évidemment, la supercherie, elle a été démasquée, mais seulement plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus tard, car un spectateur a avoué l'avoir reconnue dans le métro et de plus, aucune photo d'elle a été prise lors de la course. En 2000, lors des Jeux paralympiques de Sydney, l'équipe nationale espagnole de basketball a marqué le monde du sport par une tricherie particulièrement marquante. Donc, première réponse, elle a mis du laxatif dans la nourriture de ses adversaires, elle a fait jouer 10 fois handicapés mentaux, elle a dopé tous les joueurs qui se sont tous mis à dunker.
Ouais, non, ça je crois c'est les joueurs handicapés, en fait, ils n'étaient pas vraiment handicapés, ils en avaient
Ils en ont fait un film adapté en français avec Ahmed Silla, je crois d'ailleurs, et ouais, je crois que c'est les faux handicapés mentaux.
Mais ouais, et du coup, ils ont aussi supprimé la catégorie du coup aux Jeux Olympiques, je crois, parce que du coup, c'était des faux, et en fait, on ne peut pas trop déterminer les handicapés mentaux.
C'est vrai,
ouais, c'est ça, justement... C'était le 24 octobre 2000, l'équipe d'Espagne a bat la Russie 87 à 63. Donc pour des faux handicapés, il n'y avait pas un grand écart. Hein. Mais et justement, il y en a. En fait, il y a un des joueurs de l'équipe.
Vas-y, Suleiman, finis.
Il y a un des joueurs de l'équipe il a eu un peu de peine. Il s'en est voulu. Du coup, il est parti faire ses aveux. Il a rendu sa médaille et il a balancé toute l'équipe au passage. Honnête. Et justement, il expliquait qu'il n'y avait pas de test de QI ou quoi que ce soit, et c'est pour ça que c'est passé, quoi. Ensuite, de quoi l'athlète Stanislawa Valasiewicz, plusieurs fois championne olympique entre 1928 et 1946, a été accusée ? De se piquer aux stéroïdes, de prendre de la cocaïne avant ses courses, ou de s'être faite passer pour une fille pour passer de la catégorie homme à la catégorie femme ?
Je pense qu'un bon rail de coke en chaque course, ça doit faire du bien quand même.
Ah ouais ?
Ah, moi, je pense qu'elle s'est fait passer pour un homme. Pour une femme, plutôt. Alors que c'est un homme.
Ouais, je pense pareil. Se faire passer pour une femme, je pense que ça peut le faire, ouais.
Ouais, c'est bien ça. Durant sa carrière, elle a établi de nombreux records du monde, comme par exemple le record du 200 mètres en 23 secondes 6 en 1935, qui tiendra jusqu'en 1952. Donc c'est le plus long record du monde. Cependant, elle fut tuée lors d'une tentative de cambriolage. Et son autopsie, elle a révélé qu'elle possédait des organes génitaux masculins.
D'accord. Ben, merci Souleymane pour ce quiz. C'était fort intéressant. On doit passer à la suite. Le temps avance en bonne compagnie. Et on va faire notre deuxième débat. Donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, un débat autour des inégalités dans le sport par rapport à la technologie. Voilà, plein de nouvelles combinaisons à la natation, des perches, comme disait Iliès, au saut à la perche, qui font qu'on peut pousser les limites du corps humain pour pouvoir aller encore plus vite, encore plus haut, peu importe. Et donc, ben, je vous pose la question, la technologie règle-t-elle les inégalités ou les augmente-t-elles ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs approches. Tout d'abord, l'approche à l'échelle internationale, donc en comparant en fait deux pays de moyens différents. Je pense que à cette échelle-là, les technologies et les innovations augmentent effectivement les inégalités.
Bah, ouais, je pense que là, c'est assez indéniable. On voit clairement le meilleur exemple, c'est les JO. Puisque là on voit tous les pays qui se réunissent, peu importe d'où ils viennent, et on voit qu'il y a une grosse disparité au niveau de l'attribution des médailles en rapport avec le PIB par habitant, donc la richesse du pays. Et on voit clairement que les pays les plus pauvres, ils ont moins de médailles. Il y a en 2016, il y a eu 914 médailles pour des pays riches, donc avec un PIB assez élevé, contre 46 médailles pour tous les pays pauvres réunis. Donc là, on voit clairement qu'il y a une différence. À quoi est-ce qu'elle est due ? Bah, ça reste à déterminer, mais je pense que l'innovation technologique, elle n'a pas rien à voir là-dedans.
Je pense que ce n'est pas seulement l'innovation, mais la technologie en général, peut-être même qui sont en retard par rapport à la France de nos jours. Des technologies que peut-être on croit qu'ils sont normales dans nos vies, peut-être dans d'autres pays, elles sont extraordinaires. Et donc, une implémentation simple d'une technologie qui est ici déjà présente impliquerait de grands changements. Donc en fait, il n'y a pas seulement l'innovation, mais aussi, je pense, plus la technologie en général.
Ouais, les technologies de base. Ça. Ouais, c'est vrai que les pays riches, le fait qu'ils aient des infrastructures, ou même, comme on dit, des technologies qui sont répandues de base pour une grande majorité de la population, ça fait un écart aussi, je pense, au niveau du dénichement des nouveaux talents. Je pense que c'est beaucoup plus facile dans les pays où il y a forcément des installations qui sont répandues pour tout le monde. Non, on ne part pas du haut niveau, mais plutôt au niveau amateur. Le fait qu'il y ait des infrastructures, ou du matériel, etc. pour le niveau amateur, ça permet forcément dans les pays plus riches de dénicher plus de talents, je pense.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il existe un cercle vicieux qui est en train d'émerger en ce moment dans les pays du Sud. La baisse en fait, des investissements dans le sport fait également du coup, baisser les chances, comme tu l'as dit, de voir des athlètes accroître leurs talents et donc de dénicher de nouveaux talents dans ces pays. Et un phénomène qui est apparu récemment, c'est qu'on nomme en fait la fuite des muscles. Et donc est apparu. Et en fait, on le voit dans le football en ce moment, c'est puisque les montants des transferts sont de plus en plus élevés et les clubs ont tendance à recruter des joueurs qui viennent en fait de pays en voie de développement. Donc voilà, donc c'est un peu triste, mais bon, c'est la réalité des choses.
Un autre exemple qui montre bien que certains pays ont un suivi technologique bien plus élevé, c'est notamment le choix des sports pratiqués par les différents pays. On voit bien que dans les pays développés, on pratique des sports comme par exemple le triathlon qui demande un matériel développé dans le vélo, la natation et la course à pied. Des sports qui sont vraiment très très peu pratiqués par des pays en développement, alors que par exemple l'athlétisme ou le foot qui demande très peu de matériel sont pratiqués mondialement en fait.
Ouais, je pense qu'il y a, bon, par exemple, l'exemple des JO d'hiver où il y a beaucoup moins de pays qui participent. Bon, il y a un aspect climat, pas tous les pays ont un climat où la neige est présente, mais en fait, il y a aussi des sports où les investissements sont énormes, par exemple le ski en général, mais aussi c'est pas la course de traîneau, mais c'est le bobsleigh, par exemple, où il faut avoir une piste en glace taillée dans la glace avec des énormes traîneaux, et du coup avec des matériaux en fibre de carbone, etc. Donc en fait, la différence se creuse et c'est très flagrant.
Ouais. Et après, même s'il y a des inégalités géologiques, donc où forcément, comme tu as dit, il y a des pays où il n'y a pas de neige, donc forcément c'est impossible de faire du ski, ça n'explique pas totalement le fait qu'il y ait des telles différences au niveau des géos divers. Par exemple, dans les pays du sud d'Amérique du Sud, par exemple, comme l'Argentine ou le Chili, ils ont la cordillère des Andes, où c'est une chaîne de montagnes très très grande, mais ils comptent respectivement que 22 et 21 stations dans chacun des pays, dans la cordillère des Andes, et donc c'est pourquoi il y a vraiment très peu d'Argentins ou de Chiliens, de Chiliennes ou d'Argentines, qui ont gagné des médailles au niveau des JO d'hiver. Donc cette différence géologique et environnementale, elle n'explique pas totalement.
Mais après, les innovations, elles permettent de réduire les inégalités, elles permettent l'accès en fait, à ces sports. Enfin, on parlait de ski, mais on sait qu'à Dubaï, il existe maintenant la plus grande piste indoor au monde de ski. Donc cette innovation en fait, permet de rendre accessible à tous ce sport. Et donc peut-être qu'on pourrait dénicher de nouveaux talents.
Oui, c'est là où on voit que les pays qui ont les moyens peuvent totalement compenser en fait, les inégalités géologiques dont vous parliez.
Oui, mais du coup, ça crée d'autres inégalités. C'est-à-dire que c'est que les pays qui ont des moyens qui peuvent les compenser. Et en plus, dans ça, c'est un autre débat, mais on occulte totalement l'aspect environnemental de ces pistes, quoi. Si on parle, là, on parle juste du niveau des inégalités, mais il y a quand même un aspect environnemental qui n'est pas à négliger.
Est-ce que du coup, l'innovation créée surtout, elle accentue les différences budgétaires entre certains pays? Et ça vient surtout de là, parce que les innovations sont bien, de nouvelles choses se font, de nouveaux matériaux pour augmenter la performance. Mais est-ce que, du coup, le vrai problème, c'est juste que certains pays ou certaines personnes personnellement ne peuvent pas s'approprier ces nouveaux matériaux, et donc ça crée des inégalités par rapport aux autres pays ou aux autres personnes qu'on affronte?
Oui, totalement. Totalement, à l'échelle internationale, c'est sûr que la technologie, par manque de moyens, accentue les inégalités qui sont déjà présentes. Mais je pense qu'on peut aussi se pencher sur, à l'échelle d'un seul pays, prenons l'exemple de la France, qui est un pays développé. Je pense que dans ce cas-là, la technologie peut permettre de réduire les inégalités, en tout cas au niveau. Les sportifs ont tous une base de capacité physique extrêmement développée, c'est ce qui leur a permis d'arriver jusqu'ici. Mmh. Mais quand on parle de dixièmes de seconde lors d'une course, je pense que la technologie peut permettre à certains de battre des records avec un meilleur suivi mental, un meilleur suivi technologique.
Médical aussi, oui.
C'est ça. Et donc à ce moment-là, peut-être que la technologie permettrait de réduire ces inégalités, ou en tout cas de permettre à d'autres un poil moins forts de passer devant leur adversaire par un meilleur suivi technologique.
Oui, je pense que la démocratisation de certaines technologies qui peuvent par exemple être maintenant disponibles sur nos smartphones ou même sur des appareils pas très chers, peuvent permettre à des athlètes qui n'ont pas les moyens de faire la compétition avec ceux qui ont les technologies les plus nouvelles, grâce à simplement une implémentation plus générale dans le public, là dans le cas de la France, de technologies du suivi, par exemple, des entraînements, etc.
Ouais, c'est possible.
L'alimentation, tout ça. Mm-hmm. On peut avoir un point de vue plus précis, d'où s'améliorer, très simplement. Du coup,
C'est en train de ces aides, on va dire, technologiques sont en train de se répandre de plus en plus, c'est ça, ouais.
Oui, je pense que c'est ça. Ouais.
Après, je pense quand même que ce que tu disais, Agathe, par rapport au fait qu'il y a certains qui ont moins de capacité physique et ces différences sont compensées par les aspects technologiques, je pense que plutôt que de régler des inégalités, ça va justement en créer. C'est-à-dire que cette différence-là de base de niveau physique, je pense que c'est la différence qui est nécessaire dans un sport, puisque en effet, il y a des différences physiques et c'est sur elles qu'on doit se baser. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'avec les technologies, on contrebalance ces différences physiques, Donc dans ce cas-là, je pense que ça crée en effet des inégalités, même si ça met tout au même niveau, je pense que ça créerait des inégalités en compensant le physique.
Eh bien, merci à vous quatre pour ce débat riche en arguments et en exemples, surtout. Vous êtes bien sur Graphite 94.9, toujours, nous passons l'après-midi ensemble. Et nous allons refaire une courte pause musique avec la musique de Soprano Le Coach. On va un peu tous bouger dans votre voiture, chez vous, vous pouvez bouger. Soprano Le Coach, c'est parti.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdo dips, pompe bar, abdo dips, pompe bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach. Faut taper le cardio.
Petite pause musicale, on se retrouve en présence de Fachin et Antoine. Salut Fachin.
Bonjour à tous.
Et salut Antoine.
Salut tout le monde.
Donc vous avez réalisé une interview avec un prof de l'UTC de l'Université de Technologie de Compiègne avec Pierre Steiner. Votre interview en quelques mots?
Oui, on peut en parler, oui. Donc c'est une interview avec Pierre Steiner qui est philosophe et qui est prof aussi à l'UTC. Et donc on a enregistré du coup cette petite interview la semaine dernière puisque c'était le seul créneau qu'on avait pour l'interviewer.
Oui, exactement. Donc, il a pu venir répondre à toutes nos questions qu'on va vous présenter pour que vous-même en sachiez plus sur le dopage dans le sport, le dopage sans Dupri.
Eh bien, ne perdons pas de temps et écoutons cette interview.
Bonjour. Donc, aujourd'hui, avec Fatih, nous allons vous parler de dopage. Donc, vous l'avez sûrement remarqué, alors que le sport tend de plus en plus à devenir un spectacle de nos jours, à en croire l'importance médiatique de certains sportifs. Il y a de nombreux débats également qui font surface en ce qui concerne le dopage. Donc vous avez probablement entendu parler de Schumacher, par exemple, dans le cyclisme, ou plus récemment des suspicions de dopage dans la natation aux Jeux Olympiques à Rio en 2016 notamment. D'ailleurs, à ce moment-là, Philippe Lucas, qui était entraîneur de natation, il avait trouvé le débat sur le dopage absurde et il avait refusé même de répondre aux questions de la presse.
Donc c'est pourquoi aujourd'hui, pour discuter de ces questions, nous sommes avec Pierre Steiner, philosophe. Donc rappelons aux auditeurs que vous avez écrit l'essai Le dopage sans du prix en 2016, paru aux éditions Encre Marine, dans lequel vous évoquez un peu toutes ces questions.
Oui, tout à fait.
Donc, alors dans votre livre, vous menez une réflexion sur le dopage sportif et vous le définissez avec vos mots à vous. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est selon vous le dopage sportif et nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix de nous apporter cette définition ?
Ouais, alors en fait, il faut d'abord signaler qu'aujourd'hui est défini comme dopage l'usage de produits qui sont dopants. Quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose. Un produit, il est dopant aujourd'hui quand il figure dans une liste de produits interdits par l'Agence mondiale antidopage. Ça signifie que si aujourd'hui l'Agence mondiale antidopage décide d'inclure dans cette liste le jus de tomate deviendra un produit dopant, un produit dont l'usage est interdit lors des compétitions sportives. Évidemment, un produit est inclus dans cette liste suivant des critères. Ces critères, en fait, sont des critères qui paraissent à la fois assez évidents, mais en fait, ils sont très vagues quand on creuse un petit peu. En général, l'Agence mondiale antidopage, mais c'est aussi le cas des agences nationales de dopage et de la lutte antidopage en général depuis plus de 50 ans, elles considèrent qu'un produit est dopant à partir de différentes conditions. Par exemple, on considère comme dopant un produit qui va augmenter artificiellement les performances de l'athlète. Le problème, c'est que l'augmentation artificielle, là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement vague. Il y a de facteurs artificiels qui augmentent la performance. Pour autant, on ne considère pas que c'est du dopage. Par exemple, porter un casque en cyclisme qui va favoriser l'aérodynamisme, c'est une augmentation artificielle de la performance. Pour autant, ce n'est pas vu comme étant du dopage. Alors, on considère qu'un produit est dopant parce que c'est un produit qui est dangereux pour la santé des athlètes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de produits dopants parce qu'ils sont interdits. On ne sait pas justement évaluer leur éventuelle dangerosité. Puisqu'ils sont interdits, on ne peut pas faire d'études, évidemment, sur une population étendue. D'autre part, ça suppose que le sport, c'est quelque chose qui serait naturellement bon pour la santé. Or, le sport professionnel, au dire de très nombreux médecins, est quelque chose qui est extrêmement néfaste et dangereux pour la santé. Tout simplement, le fait d'avoir un rythme d'entraînement qui est celui du rythme des sportifs aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui génère énormément de traumatisme. D'autre part, on va dire aussi qu'un produit est dopant s'il va fausser la compétition entre les différents athlètes. Le problème, c'est que l'idée même de compétition, elle tend à encourager et à favoriser les inégalités, puisqu'il faut être le premier et le seul à être le premier pour franchir la ligne d'arrivée. Donc à ce moment-là, toutes les techniques d'entraînement, toutes les infrastructures, toutes les innovations tendent justement à accentuer différentes inégalités dans le sport. Et dépendent aussi d'autres inégalités, comme le coût d'accès aux produits, mais aussi aux différentes structures qui permettent de s'entraîner.
D'accord. Et de ce fait, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on devrait tolérer une certaine forme de dopage dans le sport ? Et si oui, lesquels par exemple ?
Alors, ce que je défends dans mon essai, c'est que les critères, les conditions qui sont aujourd'hui invoquées pour définir un produit dopant et pour condamner le dopage, ce sont des conditions qui ne tiennent pas la route. J'ai expliqué pourquoi. Encore une fois, dire que c'est artificiel, c'est idiot, parce que dans le sport, tout est artificiel. Dire que c'est dangereux pour la santé, là aussi, c'est idiot, parce que le sport en lui-même, de compétition professionnelle, il est dangereux pour la santé. Ce que je dis dans mon ouvrage, en fait, c'est que si on considère que ces critères ne sont pas de bons critères, tout est possible, on peut envisager l'introduction progressive de certaines formes de produits que l'on considère aujourd'hui comme dopants, de les tolérer dans le sport, ce qui ferait que de facto, ce ne seraient plus des produits dopants. Parce que ce qui est important, c'est qu'encore une fois, le dopage aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un produit dopant. Ça relève de ce qu'on appelle une définition performative. C'est le fait de dire que le produit est dopant qui en fait le rend dopant. Si par exemple, encore une fois, je décide aujourd'hui d'interdire dans le sport l'usage du jus de tomate, je l'interdis. À ce moment-là, ça signifie mécaniquement, comme il est interdit, personne ne va en consommer. Donc vous, ça va devenir intéressant, si vous êtes dans une compétition, d'en consommer, parce que les autres ne le consomment pas. Donc si vous voyez, c'est l'interdiction qui rend le produit dopant. C'est parce que le produit est interdit que ça devient intéressant d'y recourir. On peut envisager, et c'est du moins ce que je soutiens dans mon ouvrage avec une littérature sur la question, eh bien que l'on pourrait non pas complètement aboutir à une législation inexistante, mais du moins à quelque chose de beaucoup plus prudent, de beaucoup plus minimal sur l'usage de produits. Je pense notamment à l'érythropoïétine, le PO, qui est très répandu dans le cyclisme. Je pense aussi aux hormones de croissance ou aux bêta-bloquants. On pourrait légiférer de façon extrêmement minimale en laissant le choix aux athlètes de recourir à ces substances, en connaissance de cause, bien sûr. Si on dit que ce serait générer des inégalités nouvelles, encore une fois, c'est pas sûr, puisque le fait de rendre accessible et libre, en libre accès des produits dopants, ça peut aussi contribuer à diminuer leur prix, parce que quand un produit est interdit, c'est extrêmement difficile, c'est cher de l'obtenir, d'accord ? Le fait de démocratiser un produit dopant, eh bien là aussi, va baisser le coût d'accès de ce produit.
Très bien. Oui, effectivement, de nos jours, les systèmes antidopage se répandent de plus en plus. Mais selon vous, la lutte antidopage est-elle mise en place pour préserver l'individu ou plus pour préserver la tricherie, donc éviter la tricherie ?
C'est un peu les deux. La lutte antidopage, elle recourt à différents registres, à différents arguments pour se légitimer et pour être valorisé. On va dire qu'on doit interdire le dopage au nom de la santé des athlètes. Mais évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement hypocrite, puisque dans le système du sport contemporain, ce qu'on valorise avant tout, c'est le spectacle, c'est la médiatisation, et c'est une fréquence extrêmement soutenue des compétitions. À ce moment-là, si on voulait vraiment prendre en compte la santé des athlètes, il faudrait interdire, par exemple, aux matchs de football, qu'il y ait 2 matchs de football par semaine, par exemple. On devrait interdire le Tour de France, qui est une épreuve évidemment extrêmement exigeante pour les organismes. Enchaîner chaque jour ou presque 200 km de vélo, c'est pas bon pour la santé. Donc, ce registre est hypocrite, mais il y a aussi dans cette lutte l'idée de vouloir préserver à tout prix une espèce d'aura, une espèce de mythe du sport comme étant une activité purement naturelle, où les inégalités terminales, celui qui remporte la course, il l'aurait fait par le simple mérite, par l'effort, par le courage ou par le talent. Mais quand on dit ça, c'est extrêmement hypocrite parce qu'on ne voit pas ce qui rend mécaniquement, techniquement et financièrement possible le talent et les prouesses de chacun. Alors, ça peut être des produits dopants, mais pas toujours, évidemment. Des sportifs ne sont pas dopés, il faut rassurer là-dessus les auditeurs. Mais simplement, tout sportif du haut niveau dépend dans la construction de sa performance d'un ensemble d'infrastructures, d'accord ? Lieu où on s'entraîne, produits, artefacts, ça peut être les baskets du coureur de fond, ça peut être la raquette du joueur de tennis, ça peut être le vélo du cycliste, et bien qui là aussi contribuent à faire une différence techniquement pour cet athlète. Donc en fait, en faisant ce que je dis dans mon ouvrage notamment, c'est que finalement, la lutte contre le dopage, elle permet de rendre le sport propre. C'est-à-dire qu'en se concentrant sur le dopage, comme si le dopage était vraiment le seul vrai problème du sport contemporain, tous les autres aspects du sport aujourd'hui, et je pense notamment encore une fois les dimensions économiques, les dimensions médiatiques, les inégalités hommes-femmes, tout ça, c'était pas un souci. Finalement, le problème, c'était le dopage.
D'accord, mais du coup là, vous évoquiez tout cet aspect économique aussi qui a derrière tout ça. Est-ce que vous pensez pas vraiment que les produits dopants, par exemple, ils vont accroître les inégalités entre pays riches et pays pauvres? Puisque les pays riches vont être plus à même à pouvoir acheter ces produits dopants qui sont rares et qui coûtent cher, tandis que les pays pauvres, eux, vont devoir plutôt faire avec les moyens du bord, ce qu'ils sont capables de trouver.
Alors peut-être, mais il faut déjà noter que c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lutte antidopage, elle favorise déjà les athlètes qui proviennent des pays ou des nations les plus riches ou qui ont des sponsors les plus importants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a, depuis longtemps d'ailleurs, il y a une course contre le dopage. C'est-à-dire que pour qu'un produit soit connu comme étant un produit dopant et soit défini comme tel, il faut déjà qu'il soit utilisé et qu'il passe sous les radars. Donc si vous voulez, il y a une course de la part de l'industrie sportive et pharmaceutique pour mettre au point des produits dopants qui actuellement ne sont pas détectés, ne sont pas connus comme étant des produits dopants. Ça déjà, ça requiert des moyens que n'ont pas les athlètes qui viennent des pays ou des nations les moins favorisées, qui eux doivent se contenter, si je puis dire, de recourir aux produits dont on sait qu'ils sont dopants aujourd'hui. Ces produits étant interdits, encore une fois, ils ont un coût d'accès qui est extrêmement élevé et ils sont en plus administrés ou consommés avec, en général, dans un très grand amateurisme, de façon très maladroite, ce qui les rend dangereux pour la santé. Le fait de rendre justement ces produits dopants non dopants, des produits librement accessibles, ça peut justement amener à diminuer leur coût d'accès, mais également eh bien, à favoriser une consommation, un usage plus responsable, qui serait notamment surveillé médicalement de façon sérieuse, alors qu'également aujourd'hui, le fait que le dopage soit clandestin, non seulement le rend cher, mais le rend aussi extrêmement dangereux dans son usage.
Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses et pour votre temps. Nous avons donc vu que le dopage peut être défini, d'après notre invité, comme l'augmentation artificielle des performances du sportif, mais est également dangereux pour la santé des athlètes. Cette définition n'est pas suffisante, car il existe plusieurs facteurs extérieurs qui peuvent fausser ces données. Un produit devient dopant en le qualifiant ainsi. C'est l'interdiction qui le rend spécial, donc l'autoriser n'aiderait pas forcément. Ainsi, devrions-nous interdire ces produits ? Les réponses sont mitigées. En effet, de nombreux sont à dénoncer le dopage sportif, tel que d'ailleurs l'entraîneur Philippe Lucas, qui dans sa réponse prônait que les pays développés, tels que la Chine et la Russie, bénéficiaient d'une indulgence incompréhensible. Il provoque ainsi une réelle inégalité entre les différents athlètes et différents pays. Ainsi, le dopage est-il réellement bénéfique ? Est-ce éthiquement acceptable ? Autrement dit, pourriez-vous, chers auditeurs, y recourir dans certains domaines. Laissez-nous votre avis sur nos réseaux sociaux, tels que notre Facebook, Graph-It.
Eh bien, merci Fachin et Antoine pour cette interview.
Eh bien, pas de souci, merci à toi.
Ouais, merci à toi.
Eh bien, ce fut un grand plaisir d'être parmi vous pour cette nouvelle émission des Échos de l'Innovation. Un grand merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Et en attendant, on se quitte sur un peu de nostalgie. Même si je n'étais pas né, on était tous pas nés. Avec I Will Survive version Hermès House Band en l'honneur de nos Français victorieux de la Coupe du Monde 1998. Et sans dopage, bien sûr. Bonne journée à tous. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're. But now I hold my head.